Bien, nous commençons donc un troisième cycle. Le titre de ce soir, c'est Une créature créatrice. On va s'éloigner un peu du travail proprement dit, mais pour essayer de le fonder, en quelque sorte, ce qu'on va dire par la suite sur ce travail. Donc le verset que... à partir duquel nous commençons, c'est le verset de la création de l'homme. Donc c'est dans Bereshit, premier chapitre, verset 27. Le pasouk dit Vayivra Elohim et Adam betzalmo betzelem Elohim bara oto zachar unkeva bara otam. Littéralement, Vayivra, il a créé, c'est le même mot que celui qui est utilisé au tout début de la Torah, Bereshit Bara. C'est une création a priori, ce terme-là, il n'est utilisé que pour une création à partir de rien. Elohim, c'est donc un nom divin, c'est le nom divin du début, qui est utilisé au tout début du récit de la création. Et Adam, l'homme, on ne sait pas exactement ce que c'est. Betzalmo, à son image. Betzalmo, c'est Betzelem Shelo. Donc Betzelem Elohim, bara oto, semble-t-il une redondance. Il l'a créé de toute pièce. Betzelem Elohim, à l'image d'Elohim. Et puis on ajoute Zachar ou Nekeva, mâle et femelle, bara otam. Il les a créés. Donc on a passé d'un singulier à un pluriel. Alors je ne vais pas commenter tous les termes. Vous imaginez bien qu'il y a énormément de choses à dire sur ce verset, mais je vais garder quelques-uns des commentaires qui, me semble-t-il, nous seront utiles par la suite. Rashi dit sur ce verset, sur la première partie, Vaivra Elohim et Adam Betzalmo. Elohim a créé l'homme à son image. Évidemment, on ne sait pas du tout ce que veut dire à son image. Alors Rashi précise, Bitfus, avec un moule, Haasuilo, qu'il avait, Shakol Nivra Bemahamar. Rashi dit une chose très intéressante. Il dit, toutes les choses ont été créées par la parole divine. N'est-ce pas? Hachem a dit, Yehi Or, que la lumière soit et la lumière fut. Toutes les choses sont créées par la parole divine. Vehu, et lui, l'homme, Nivra Beyadaim. Il est créé par la parole divine, mais il est aussi créé, littéralement, par les mains. Comme c'est marqué dans le pasouk, c'est un pasouk dans Tehilim, qui dit, tu as posé kapecha alai, tu as posé sur moi tes mains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nasa, pardon, bechotem, il a été fabriqué avec un chotem, avec un sceau, exactement comme une pièce de monnaie qu'on a frappée avec un coin, en fait. Ça, c'est ce que Rashi dit sur cette première partie. Il dit quelque chose. Il dit qu'il y a singularité dans la création de l'homme. Le monde entier est créé uniquement par la parole divine, parole performative, ce que vous voulez, et l'être humain est créé par la parole, mais il est aussi créé par Yadaim. Il est créé par les mains divines, si on peut parler comme ça. Alors, il a expliqué comment par les mains. Alors d'abord, il y a un verset de Tehilim, de David HaMelech, qui dit justement, tu as mis tes mains sur moi, En quelque sorte, c'est comme s'il y avait une forme d'empreinte divine qui fabrique l'homme. Mais ensuite, Rashi commente la suite du verset. Le verset dit « Betzelem Elokim bara oto ». On a déjà dit qu'il « bara oto betzalmo », il l'a déjà créé à son image. Maintenant, on précise, ce qui est a priori une redondance, « Betzelem Elokim bara oto ». C'est-à-dire qu'on a remplacé le pronom « betzalmo », le pronom qui est à la fin « betzelem shelo », par une mention explicite du nom divin, d'Elohim. Donc c'est Elohim qui l'a créé, mais Elohim l'a créé à son image, à l'image d'Elohim. Alors Rashi commente, « Betzelem Elohim bara oto ». Ça vient nous dire, ou ça vient te dire, dit Rashi, « She oto tselem », que cette image, Hametukanlo, qui était là, à disposition, en quelque sorte, d'Hachem, c'est un tselem, c'est une image, Dyokan Yotsrohu, c'est une image du, disons, de la marque ou du visage de son créateur. En d'autres termes, cette image qui est là et qui a servi à Hachem pour créer l'homme, cette image, on aurait pu imaginer que, bon, c'était, on aurait pu mettre dans ce moule n'importe quelle image. On aurait pu, je ne sais pas, faire un moule triangulaire, d'accord, bon, je vous laisse, on va faire de la fiction, d'accord, et on aurait pu choisir n'importe quelle empreinte. Il se trouve, dit Rashi, ce que vient nous dire le verset ici, c'est, tu sais, ce moule, en fait, il porte l'empreinte du Créateur. Et donc l'homme est créé avec la forme, si on peut parler comme ça, du Créateur. En d'autres termes, l'homme est vraiment à l'image du Créateur, quoi que veuille dire cette expression, il a l'image du Créateur, il est à l'image du Créateur. Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce que ça peut vouloir dire, étant donné que le Créateur n'a évidemment pas d'image. Je vais revenir sur le fait que l'homme, lui, a été créé par la parole et par Yadaim, par les mains, par des actes en quelque sorte. On peut se demander si, au fond, cette création, elle a eu lieu de telle manière, de cette manière-là, pour que l'homme puisse recevoir des mitzvot. Les mitzvot sont essentiellement des actes à faire, ou à ne pas faire. En tout cas pour les actes qui sont à faire, lorsque on se trouve dans une situation où les actes en question ne sont pas possibles. Par exemple, la Torah me prescrit de faire certains actes, mais ces actes-là, je ne peux les faire que dans, par exemple, dans le contexte d'un Beth Amikdash, d'un temple, et nous n'avons pas aujourd'hui de temple. Alors qu'est-ce qu'il en est de ces actes? Est-ce que ces actes sont simplement, ils ne nous concernent pas, point à la ligne? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors, dans une grande partie de ces actes, en tout cas dans la partie positive évidemment, on a un verset qui dit « Un shalma parim sfatenu », c'est-à-dire que au lieu d'approcher des taureaux comme korbanot, comme sacrifice, on les remplace par sfatenu, par le produit de nos lèvres, c'est-à-dire par nos paroles. Et donc, il y a donc ces deux éléments, acte et parole, qui caractérisent l'homme au moment de sa création. Et je me suis demandé si cette caractérisation, elle n'était pas là justement pour permettre à l'homme cette double action, a priori par des actes, mais yadaim, comme dit Rashi, et a posteriori, lorsque ce n'est pas possible de faire les actes, eh bien, de remplacer ces actes par des paroles. C'est-à-dire qu'on va, étant donné que ces actes sont décrits dans la Torah, eh bien, on va lire ce qui est décrit dans la Torah, on va essayer de s'en imprégner, on va essayer de se le représenter, et ça fonctionnera comme acte, c'est-à-dire à la place des actes. Nous ne dirons pas « ces mitzvot ne nous concernent pas du tout puisqu'il nous manque l'environnement de ces mitzvot », on dira « oui, il nous manque l'environnement, donc en tant qu'acte, on ne peut pas le faire, mais on est quand même en position de faire quelque chose. » Et d'ailleurs, si on voulait, on pourrait aussi utiliser ce mode de cette réflexion-là dans le domaine des interdits. Parce que dans le domaine des interdits, les choses qui sont interdites, elles nous sont interdites parce que en nous interdisant ces choses-là, nous nous construisons d'une certaine manière également. Les interdits ne sont pas simplement des interdits point barre. C'est aussi une façon de se construire. Alors, il y a un texte de Chazal qui dit que « En Adam Omed al divrei Torah » qu'un homme ne peut pas comprendre réellement ce que sont les paroles de la Torah tant qu'il ne s'est pas cassé la figure sur ces paroles. En d'autres termes, tant qu'il n'a pas transgressé. Alors la question qui se pose, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut commencer la liste, vous pouvez commencer à cocher. D'accord, est-ce que celui-là je l'ai déjà fait, cet interdit-là? Non, tu sais, il m'en manque quelques-uns là. Évidemment, c'est pas comme ça, a priori, que ça fonctionne. Mais qu'est-ce que Chazal ont voulu dire ici? Alors là aussi, dans l'étude, je crois que ce Chazal veut dire, dans l'étude complète de cet interdit, de savoir pourquoi est-ce qu'il faut pourquoi on étudie l'interdit. Pas seulement pour savoir ce qu'il ne faut pas faire, ça serait rapidement réglé. Il suffit de prendre un code qui te dit tu fais ça et tu fais pas ça et c'est réglé. Or, sur une grande partie des interdits, on a des pages et des pages. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Dis-moi si c'est un permis ou interdit, point barre. Non, l'étude elle-même, elle nous permet, lorsqu'elle est faite, lorsqu'on va jusqu'au bout dans cette étude, bien, on produit, si vous voulez, une image, on produit les anticorps que l'accident, que le fait de s'être cassé la figure sur les interdits en question aurait produit. Non, c'est-à-dire, quelque part, il faut intégrer ces interdits. Eh bien, on peut les intégrer ou bien en faisant l'expérience, et ça, personne ne... l'expérience de la transgression, mais évidemment, c'est pas un choix. Ou alors, il faut étudier la chose et se représenter ce que c'est que cet interdit et sa transgression. Et on fait en quelque sorte, comme une expérience de pensée qui va générer en nous ce que la transgression aurait généré lorsqu'elle aura été... La transgression en elle-même, elle ne va pas régler les problèmes, il faudra faire tshuva et revenir, etc., et se retrouver riche de cette transgression, c'est-à-dire riche du travail qu'on a fait grâce à cette transgression. Ce qui veut dire qu'on a par la parole, par l'étude, par la parole, on a le moyen on a des équivalents d'actes. Et je reviens sur ce que je disais, je me demande si, au fond, ça n'est pas inhérent, enfin, cette possibilité de produire des actes ou de produire des paroles, de l'étude, au fond, n'est pas quelque chose qui est justement, qui est là en l'homme, dès le moment de sa création, par cette double création, par la parole et par les actes, plutôt par les actes et par la parole. Qu'est-ce que c'est que le Tselem? Qu'est-ce que c'est que cette image, Tselem Elohim? Alors, il y a une littérature kabbalistique là-dessus absolument gigantesque. Rashi nous a dit ici que le Tselem, c'était le Tfus. Que le Tselem, c'était le moule, en quelque sorte. Alors, une première remarque. Le Tselem est construit sur le mot Tsel. Tsel, c'est l'ombre. L'ombre de quelque chose. Tselem, c'est... Donc, c'est l'ombre, ça veut dire, ce n'est pas la chose elle-même, mais c'est une forme de représentation de cette chose. Seulement, si Tselem, je remplace Tselem par Dfus, comme Rashi le suggère, alors en fait, le Tsel, l'ombre, et donc le Tselem de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui existe a posteriori. Lorsque j'ai cette bouteille, suivant comment je l'éclaire, elle va produire une ombre. Mais l'ombre, elle n'existe qu'après que la bouteille existe. Je ne peux pas produire l'ombre de la bouteille sans la bouteille. Par contre, le moule, lui, il est avant. C'est le moule de la bouteille. D'accord ? Et donc, ce moule existe avant la bouteille. Et donc, Rashi a remplacé Tselem, quelque chose qui est un a posteriori, par quelque chose qui est un a priori. Il a remplacé Tselem par Tfus. On verra ce qu'on peut en faire. La première tâche, lorsque on voudra réaliser quelque chose qu'on s'est représenté dans son imagination, on a une certaine forme à laquelle on a pensé dans son imagination, et on veut réaliser cette forme concrètement, la première chose à faire, ce sera de fabriquer des moules qui vont donner les formes extérieures et éventuellement intérieures de ce que nous voulons produire, de cette chose-là. Il faut fabriquer le moule. Si on n'a pas le moule, on ne pourra pas fabriquer l'objet en question. Quand je dis fabriquer le moule, c'est fabriquer ou bien le moule, ou bien fabriquer l'instrument avec lequel on va pouvoir produire. C'est pas obligatoirement un moule, ça peut être aussi un stylet avec lequel on va graver, un stylet avec lequel on va travailler une masse de métal ou de quoi que ce soit. D'accord, c'est pas obligatoirement un moule. Mais ça, on va creuser, on va... Donc, lorsqu'Hachem a créé le monde, il a créé un monde dans lequel, ultimement, quel est le but du monde? Le but du monde, c'est que la forme de toute chose soit ultimement dévoilée. Il y a plein de choses qui existent dans le monde, et nous ne connaissons pas réellement la forme de la chose. Quelle est la vraie forme de la chose? Il y a des choses qui ne nous sont accessibles que sous une forme, que si vous voulez, dans une gangue ou dans quelque chose qui nous empêche de voir vraiment la forme de la chose. Lorsque j'essaye de savoir qui j'ai en face de moi, la forme, c'est-à-dire les caractéristiques profondes de la personne, par exemple, que j'ai en face de moi, ne sont pas immédiatement accessibles. Il montre ce qu'il veut montrer. Et même moi-même, je me montre à moi-même ce que j'ai envie de me montrer. Le but du monde, c'est que toutes les choses soient connues toutes les dans leur forme réelle, dans leur forme initiale, dans leur forme fondamentale, dégagée de tout ce qui s'est agrégé, etc. Alors, pour que ceci puisse se faire, Hachem, disent les kabbalistes, a émané une force que nous appelons Kohar, qui veut dire force, que nous appelons Or, qui veut dire lumière, que nous appelons volonté, volonté divine, le ratson. Les Grecs appelaient cela, c'est-à-dire nos maîtres disent que les Grecs appelaient ça le Iouli. Je pense que c'était une espèce de quelque chose qui n'est ni vraiment matière, ni forme. Grâce à cela, on va pouvoir accéder à ce que sont vraiment les choses, pour réellement dévoiler le monde, en fait, quelque sorte. Bien entendu, le tfous, le moule, il va se faire, par exemple, ici, tel que ça nous est décrit, ce moule-là, il est à l'image du Créateur. Donc, la vraie forme de l'homme, c'est être à l'image du Créateur. C'est ça la forme. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être à l'image du Créateur? On va faire un petit détour. Dans la prière de Hana, la mère de Shmuel, du prophète Shmuel, qui fait sa prière, elle a dit « Ein tzur ke Elokeinu ». Il n'y a pas de rocher, donc de point d'ancrage fiable, autre que notre Dieu. Elle a chanté « Ein tzur ke Elokeinu ». Tzur, c'est son rocher, là, c'est cette idée de quelque chose sur lequel on puisse, par rapport auquel on puisse se référer, puisse s'appuyer. Elle voulait dire ici que dans toutes les difficultés par lesquelles elle est passée jusqu'à ce qu'elle obtienne cet enfant qu'elle a attendu si longtemps, finalement, le seul point d'appui qu'elle a vraiment eu, c'était Elokeinu, c'est notre Dieu. Et Chazal sont venus, le mot Tzur, il s'écrit Tzadi, Vav, Reish. Les Chachamim sont venus, et au lieu de Ein Tzur ke Elokeinu, ils ont lu Ein Tzayar ke Elokeinu. Si vous voulez, formellement, c'est comme si on avait pris le Vav, qu'on l'ait coupé en deux, ça fait deux Yud, Tzadik Yud Yud Reish, au lieu de Tzadik Vav Reish, et In Tzayar Kelokeinu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dessinateur comparable à notre Dieu. Alors, du coup, on se demande qu'est-ce que ça veut dire Dieu comme dessinateur? Est-ce qu'il se fait des petits dessins? Alors, il y a un enseignement de Rav Yitzhak Hüttner à ce sujet qui dit que cette notion de tziyur, cette notion de représentation de Hachem comme fabricant des représentations, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire qu'Hachem a créé dans le monde des miniatures. La première miniature qu'on trouve dans la Torah, c'est l'homme. C'est ça la traduction. Betzelem Elokim, être à l'image de, c'est être une miniature d'Elokim. Alors, cette miniature, elle a été créée par Hachem, mais elle a un travail qui lui incombe, qui est de se construire comme telle. C'est-à-dire, elle est à l'image de, à l'image d'Hachem, mais elle doit se construire à l'image d'Hachem. C'est-à-dire, en d'autres termes, il n'est que le tselem. Ce n'est pas la chose elle-même. L'homme n'est pas le créateur. Mais il est à l'image du créateur et il doit se construire à l'image du créateur. Le mot Elohim, en valeur numérique, il a la même valeur que Hateva. Il a la même valeur que la nature. Et le Megdavar et d'autres disent que être Betzelem Elohim, ça veut dire que toute la nature est à l'intérieur de l'homme. Que l'homme récapitule en lui toute la nature. On va y revenir. La seconde miniature qui existe dans la Torah, c'est le Shabbat. Shabbat est présenté comme étant Me'ein Olam Haba. Le Shabbat est présenté comme étant quelque chose qui a le goût du monde à venir. Me'ein Olam Haba. Le Shabbat a aussi été donné par Hachem. Mais là aussi, il y a une construction du Shabbat. On l'avait dit, je crois, la dernière fois que j'en ai parlé. Le Shabbat, il vient régulièrement, tous les 7 jours. Quoi que nous fassions, que nous l'observions ou que nous ne l'observions pas. Et il y a dans la Torah une mitzvah de sanctifier le Shabbat, donc de proclamer le Shabbat. Et je vous avais dit, il y a une mitzvah de le proclamer. Mais si vous ne le proclamez pas, il est là quand même. Et donc on s'était interrogé, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que ces proclamations qui ne servent à rien, disons. Qu'est-ce que c'est que cette... On avait dit la même chose sur la prora, sur le... l'akdusha, la sainteté d'un animal qui est premier-né. Il doit être approché sur l'autel. Mais sa kedusha, elle vient du fait qu'il a été le premier à inaugurer la sortie par les voies basses de la brebis en question. Et donc sa kedusha, elle est là. Et néanmoins, il y a une mitzvah de se tenir à côté de l'agneau qui vient de naître et de dire « Arei ze bechor ». Cet animal est premier-né. Et là aussi, et si on ne le dit pas, ben il est premier-né quand même. Et donc on s'était interrogé, mais alors, qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Alors je vous avais dit que je crois que la Torah veut que nous reprenions la main. Je vais essayer d'expliquer un peu mieux de quoi il s'agit. Le Shabbat, c'est donc une construction. Nous devons fabriquer le Shabbat, le vivre comme Shabbat. Dans la première miniature, qu'était l'homme, C'était l'homme qui est la miniature et qui doit se construire pour être vraiment la miniature en question. Et si dans le Shabbat, c'est l'homme qui doit construire la miniature, il n'est pas cette fois-ci la miniature lui-même. C'est le Shabbat qui est la miniature, c'est à lui à la construire. C'est-à-dire c'est une miniature qui construit une autre miniature. Bien sûr, ça n'est pas possible de construire cela si ce n'est dans le cadre d'une mitzvah, parce qu'il faut que quelqu'un nous en donne l'ordre et nous en donne le pouvoir de construire la chose comme une miniature, pour assurer la compatibilité entre la miniature et le modèle. Je ne peux pas m'improviser constructeur du Shabbat. On voit bien que il n'y a rien d'intuitif dans le Shabbat. Le Shabbat comme jour de repos, comme jour de jouissance, etc., c'est très peu intuitif. C'est-à-dire, je pourrais... Il y a plein de gens qui diraient, mais moi, Shabbat, j'aimerais bien faire de la musique, j'aimerais bien aller faire une promenade en voiture, etc. Ce serait très agréable. On pourrait très bien dire qu'on a ainsi élevé le Shabbat, etc. La halakha n'est pas comme ça. Donc on ne peut pas improviser ce me'ein olam haba. C'est vrai que ça doit être une représentation du monde à venir. Mais d'abord, on ne connaît pas le monde à venir. On ne sait pas ce qu'il sera. Et alors, évidemment, on ne peut pas en faire une représentation, une miniature. Et néanmoins, on doit le faire quand même. Alors, l'aide que la Torah nous apporte, c'est elle me dit, voilà comment on fait le Shabbat. Et je te dis qu'en faisant ça, c'est comme ça que tu transformes le Shabbat en Me'en Olam Haba. Si tu veux faire du Shabbat une miniature du monde à venir, voilà comment tu dois te comporter ce jour du Shabbat. Dans le Torah Tmima, il rapporte Avot de Rabbi Nathan, un enseignement de Chachamim, Betsalmo. Le Betsalmo, donc à son image, il y a un enseignement, il y a, comme je vous ai dit, il y a une littérature absolument fabuleuse là-dessus. Un des enseignements, c'est Melamed Shenivra Adam Harishon Mahul. Ça vient enseigner que Adam Harishon, lorsqu'il est né, il était déjà circoncis. Ça, on le déduit du Betsalmo. Qu'est-ce que ça a à voir avec Betsalmo? Alors, il se trouve que la Mila, donc la circoncision, c'est à la fois un acte, et c'est aussi à la fois un mot. C'est le mot mot. Emoté. Mila, c'est la... Comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est en hébreu le emoté. Un mot. Mila. Donc on retrouve chez Adam à la fois l'acte et la parole, le mot. Et on peut du coup se demander, est-ce que justement, comme je l'avais suggéré au début, est-ce que ça n'est pas justement une introduction à la miniature? C'est-à-dire, comment faire pour que l'homme puisse être vraiment Betsalmo? Semble-t-il, il y a quelque chose du genre acte et mot, acte et parole, et ça s'inscrit dans le corps d'Adam. Adam, au départ, l'être humain tel qu'il est créé, il est créé avec cette double qualité, acte, mot, inscrite dans son corps. Alors, comme vous savez, cette mitzvah, c'est-à-dire que, bon, lui, il est né comme ça. Et puis, la circoncision elle-même, C'est la mitzvah qui a distingué Abraham du reste du monde. Et c'est la mitzvah qu'avaient les Bnei Israël quasiment dans toute leur histoire, on va dire en gros, jusqu'à un peu avant Matan Torah. En Égypte, la mitzvah qui faisait la différence, qui séparait les Bnei Israël des Égyptiens, c'est la Mila. C'est cette mitzvah, bon, c'est cet état qu'il faut fabriquer. Donc là, ici, on est au début de la construction, en quelque sorte, à la miniature. Bon. Hachem a montré comment la miniature était adéquate, une condition pour qu'elle puisse être miniature, pour qu'elle puisse être représentation d'Hachem. Donc, en faisant naître Adam circoncis. Et ensuite, quand les hommes vont être capables de prendre en charge ce travail de se transformer pour être miniature, pour être Betzelem Elohim, ça va se commencer avec Abraham, à ce moment-là, Hachem donnera à Abraham la mitzvah, la seule mitzvah qu'il ait jamais reçue, la mitzvah de Mila. Du coup, c'est l'homme qui se construit comme satisfaisant maintenant la condition pour être Betzelem Elohim. Ça n'épuise pas le travail. Mais semble-t-il, c'est une condition sine qua non. S'il n'y a pas ça, alors ça ne commence pas, le travail ne commence pas. Pasuk dit que l'homme, lorsqu'il a été créé, il est devenu Nefesh Chaya, littéralement une âme vivante. Les animaux aussi sont Nefesh Chaya. Qu'est-ce qu'on a dit de spécial en disant ça sur l'homme? C'est que, d'après Rashi, la Neshama de vie, c'est-à-dire la Neshama qui assure la survie, si vous voulez, chez l'homme, elle est vraiment devenue chaya, elle est vraiment devenue vivante, plus vivante, grâce à deux choses, au discernement, au da'at, et à la parole. Du coup, l'homme a une qualité de vie différente, bon, c'est de la vie aussi. On ne sait pas plus ce qu'est la vie animale que ce qu'est la vie humaine. Mais la qualité de vie de l'homme, c'est d'être une vie plus vivante grâce à la parole et au da'at. Grâce à la parole et au discernement. Il y a en réalité deux sens à la notion de chai, au sens de la vie dans la Torah. On dit toujours que la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui échappent à la mort. Mais chai, ça veut dire à la fois non mort, qui n'est pas mort, et ça veut aussi dire non triste, en quelque sorte. Ça veut dire être dans la joie, qui est une forme de perfection. Vivre pleinement, c'est vivre dans la joie. Et la joie, la vraie joie, ou la vraie vie, si vous voulez, c'est l'étude. Le Rambam, dans les halakhot, les lois qui concernent les villes-refuges, lorsque quelqu'un tue par inadvertance, la Torah a prescrit qu'il doit aller, pour un certain temps, dans une ville-refuge. Et dans cette ville-refuge, on doit lui recréer toutes les conditions de vie qu'il avait auparavant. En particulier, s'il avait un maître, eh bien son maître doit aussi aller dans cette ville refuge. Lui, il pourrait en sortir, mais il doit aussi aller dans cette ville refuge parce que l'assassin en question, par inadvertance, celui qui, il n'a pas été condamné à ne plus vivre. Or, dit Rambam, quelqu'un qui a une recherche au niveau de la Torah, s'il en est privé, la vie n'est plus une vie. Et donc on ne peut pas le priver de vie, et pour cela, son maître va aussi aller en exil. Et à l'inverse, si c'est le maître qui a tué par inadvertance, lui, il a besoin de ses élèves, les élèves iront aussi dans la ville refuge. Parce que s'il ne peut pas enseigner, alors ce n'est plus une vie. Donc ici, on voit que l'homme qui a été créé comme miniature, c'est les Elohim, et dont on nous dit qu'il est Nefesh Chaya, on nous dit que lui, il a une forme de vie plus vivante. Être plus vivant, c'est être plus à même d'être à l'image du Créateur. Le Créateur, il est la vie. Et donc, plus je suis vivant, plus je peux être à l'image du Créateur. Je vous ai dit, le Emek Davar, le Netziv, il considère que l'homme contient toute la nature. Être Betzelem Elohim, ça veut dire contenir tout ce que Elohim contient, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire toute la nature. Ça, dit-il, c'est vrai pour l'Adam initial, pour l'homme tel qu'il a été créé par Hachem. Par la suite, dit le Netziv, c'est autre chose. Par la suite, cet homme-là, en réalité, il n'était pas, s'il contient toute la nature, il n'était pas spécifiquement masculin, féminin, ou mâle, ou femelle. Ensuite, il devient Zachar ou bien Nekeva, c'est-à-dire mâle ou femelle. Et le Netziv dit quelque chose d'intéressant, il dit, on ne vient pas te dire ici que l'espèce humaine contient des mâles et des femelles comme dans d'autres espèces. Mais cela vient dire que le Zachar et la Nekeva sont deux espèces différentes. La femme est un autre homme au sens de... C'est un autre être humain. Pour lui, c'est ça que l'enseignement vient dire. C'est-à-dire que c'est pas un mâle et une femelle de la même espèce. Parce que, premièrement, si c'était pour nous dire ça, la Torah n'avait pas besoin de le dire, elle l'a dit sur toutes les espèces qu'elles étaient créées avec des mâles et des femelles, donc, évidemment. On veut dire ici que l'homme et la femme sont deux, je pense qu'il faut dire ça, deux sortes. Il y a un homme et un autre homme, au sens, il y a un être humain et un autre être humain. C'est ça l'altérité réelle entre l'homme et la femme. C'est pas l'altérité simplement de la différence qu'il y a entre le masculin et le féminin. C'est une altérité radicale, après les mecs d'Avar. C'est une altérité radicale. Oui, alors ça c'était tel qu'il a été créé. Ensuite, après la faute, on n'a plus on n'a plus cela. Alors, ce qu'il faut dire, peut-être que vous avez bien le dire tout de suite, c'est que il y a une discussion pour savoir quand Caïn et Ève ont été créés. Quand est-ce qu'ils sont nés, si vous préférez. Quand vous lisez le texte de la Torah, vous avez l'impression que Caïn et Ève sont nés après la faute d'Adam et de Chava. Mais Rashi ne dit pas comme ça. Rashi dit que Caïn et Ève sont nés avant la faute. Ça veut dire la chose suivante. S'ils sont nés avant la faute, ça veut dire que la notion d'enfant ne vient pas compenser la mort. La faute a entraîné la mort. D'accord, bon, il va falloir compenser la mort. Alors on dit en général, c'est l'espèce d'héros qui compense Thanatos et on remplace. Il y a un remplacement de génération grâce à la naissance de la génération d'après. D'après Rashi, c'est pas de ça qu'il s'agit, puisque ils sont nés avant. Ils sont nés à un moment où Adam et Chava étaient immortels. Donc ils ne viennent pas compenser la mort. Alors, comme on sait, en même temps que Caïn et Ève sont nés des jumelles, deux jumelles avec Ève, et une jumelle est née en même temps que Caïn. Et par conséquent, la situation, disons là, l'homme qui a été créé avant la faute, cet homme initial là, qui était, dont on a dit que il contenait toute la nature et que c'est ça être Tselem Elohim, cet homme là, c'est en réalité un ensemble de relations. Ce n'est pas un homme, une femme, c'est un ensemble de relations. Un ensemble de relations filiales, parentales, conjugales, fraternelles, sororales, je ne sais pas comment on dit, une relation croisée entre frères et sœurs. Toutes ces relations-là étaient là. Bon, puisqu'il y avait Adam, Chava, leurs deux fils, et leurs trois filles, jumelles. Et ça, c'est la situation d'avant la faute. Donc, d'après Rashi, c'est fondamental, parce que ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de projet constitué par un être, tout seul. Ça n'a jamais existé. Jamais. La dame initiale n'était pas comme ça. Alors, bien sûr, il y a d'autres commentateurs qui disent des choses telles qu'on a l'habitude de les entendre, à savoir que les enfants sont nés après et que par conséquent, initialement, il y avait un couple. Lui, le Netziv, il dit initialement, il n'y avait pas un couple. Il y avait un être qu'on appelle Adam, qui lui était vraiment à l'image. Tselem Elohim. Et c'est comme si, par la suite, on a des miniatures. Mais pour avoir une miniature, ça ne se fait qu'avec le couple Zachar et Nekeva. Il faut deux. Après la faute, on peut pas, il n'y a pas un être qui puisse jouer ce rôle de miniature du Créateur. Après la faute, pour jouer ce rôle de miniature, de créateur, il faut un Zahar, une Nekeva, c'est-à-dire il faut en fait deux espèces. Deux espèces d'hommes, d'êtres humains. Un qu'on appellera Zahar et un qu'on appelle Nekeva. L'homme comme miniature de Kadosh Baruch Hu, miniature du Créateur, Qu'est-ce qui va le caractériser? Qu'est-ce qui caractérise le créateur? Ben, c'est d'être créateur, justement. Et donc, être une miniature du créateur, ça implique d'être créateur. Donc, on doit regarder un peu ce qu'il en est de la, ce qu'on va appeler la créativité. Les trois définitions, disons, de la créativité, c'est un acte de créer quelque chose de nouveau. C'est une capacité à trouver des solutions originales. Et c'est aussi une volonté de modifier le monde ou de le transformer. Alors ça, effectivement, ce sont des choses qu'on trouve chez Avraham Avinu, qu'on trouve chez Moshe Rabbeinu. Des caractéristiques il y a un chercheur américain qui a travaillé sur la créativité et qui pense que la créativité et le leadership sont intimement liés. Il s'appelle Robert Sternberg. Il pense que la créativité, c'est une forme de leadership. Cette forme de leadership, en fait, à l'échelle du peuple juif tout entier, c'est ce que le Navi, ce que le prophète donne comme tâche au Bnei Israël, d'être Or la'amim, d'être une lumière pour les peuples. C'est-à-dire, tout à la fois, créer quelque chose de nouveau, une société nouvelle éventuellement, trouver des solutions originales, et considérer que le monde est là pour être transformé, pour être, le cas échéant, modifié. Alors, cette créativité liée avec le leadership, en fait, on voit que cette créativité particulière, elle est là chez les Avot, chez les patriarches. Parce que les patriarches ne portent leur nom de Avot, de père, P-E, oui, uniquement parce qu'ils sont des inventeurs. Ce sont des gens qui ont inventé quelque chose de nouveau, trouver des solutions originales et qui ont décidé de modifier le monde ou le transformer. Alors, chez l'Avot, c'est assez clair. C'est également le cas de Moshe Rabbeinu qui, effectivement, va transformer la situation. Il va sortir les Bnei Israël d'Égypte. Chez David Amelar, ça se manifeste par exemple par le chant. C'est les Tehillim de David, c'est la créativité de David. Mais c'est pas seulement ça, parce que David, c'est le Mashiach. Il est le roi qui amène les Bnei Israël au but, même si entre-temps, lui-même, ça n'a pas marché complètement, mais c'est son descendant qui sera le Mashiach. Donc là aussi, il y a une créativité, au sens où il faut créer un monde tout entier, un monde tout entier nouveau. Si on peut prendre quelqu'un de plus proche de nous, quelqu'un comme le Hafetz Chaim, par exemple, on peut dire la créativité s'est exprimée de deux manières. Ceux ou celles auxquels ça dit quelque chose, il a inventé une façon de présenter la halakha, de rédiger la halakha telle qu'elle est présentée. Le, le mode de présentation du Mishnah Brura, de son œuvre, c'est tout nouveau. Ça n'avait jamais existé de cette manière-là. Et on voit très bien que ça a tellement marché qu'il y a plein de gens qui le copient. Aujourd'hui, quasiment, tous les livres de Halakha sortent plus ou moins sur ce modèle-là. Et puis, il a inventé le Shulchan Aruch sur le Lashon Hara. C'est-à-dire, il l'a inventé. Ça existait avant, les Halakhot. Mais il s'est attaqué à un monde. Il est allé dans tous les détails. Ça, pratiquement, ça ne s'était jamais fait qu'une personne seule, quasiment, s'attaque à tout un domaine qui était quasiment en friche. Personne ne s'en occupait vraiment. Pour Sternberg, la créativité est aussi une des trois composantes du leadership, mais je ne connais pas les deux autres, je n'ai pas eu le temps de les regarder. Dans la créativité, s'il s'agit de créer quelque chose de radicalement nouveau, alors le grand problème dans le radicalement nouveau, c'est qu'il faut d'abord arriver à le penser. C'est difficile de penser du radicalement nouveau. En fait, les deux naissances du peuple juif sont des impensables. Que ce soit à l'époque d'Abraham ou à l'époque de la sortie d'Égypte, c'est de l'ordre de l'impensable. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que l'homme à lui tout seul n'a pas pu inventer. On dit c'est Hachem qui nous a sorti d'Égypte, c'est aussi Hachem qui a pris Abraham et qui lui a donné la possibilité de devenir le peuple juif en fait. Et donc, on a exprimé cette idée de miniature. C'est ça, c'est le monde est en fait un ensemble de miniatures où il s'agit de faire les choses, on peut dire, comme Hachem les a faites, et je dirais presque à la place d'Hachem, au sens. Comme si Hachem disait aux hommes, ben faites-le maintenant. Je vous ai donné les moyens de le faire, faites-le. Alors, on n'est pas lancé sans aucun modèle. On a à chaque fois les modèles. Alors, un des grands modèles, si on parlait comme ça, c'est qu'on dit toujours, Eve domé lo. Tu dois lui ressembler. On dit de la même manière que lui, on parle d'Hachem ici. Il est miséricordieux, tu dois être miséricordieux. Il a de ses qualités, tu dois aussi avoir ses qualités. Ça veut dire, copie-le. Mais on te dit, copie-le, mais n'oublie pas que tu es tselem, tu es tsel seulement. Tu n'es pas la chose elle-même, tu es l'ombre de la chose. Mais tu n'es pas la chose en elle-même. Ce que je n'ai pas la chose dans les mêmes. Il est extrêmement difficile de jouer le rôle qu'Hachem nous a attribué et en même temps de se souvenir de ce que nous sommes, que nous sommes créatures. Quelque part, on a un rôle de créateur et on doit se rappeler en permanence qu'on est créature. Alors, pour dire quelque chose sur le travail, visiblement, d'après ce que la Torah nous dit, le travail, qui est une vraie valeur, c'est un travail créateur. Si le travail n'est pas créateur, alors il y a un énorme risque que ce travail devienne un esclavage. C'est-à-dire qu'une question qu'on peut laisser ouverte, mais dont j'ai tendance à penser qu'elle ne restera pas très longtemps ouverte, c'est: est-ce qu'il y a un troisième terme? Est-ce qu'il y a un troisième terme entre créateur, travail créateur, esclavage. Est-ce qu'il existe un troisième terme? Est-ce qu'il y a un terme plus neutre qui ne soit pas esclavage? On a vu la semaine dernière que c'est très difficile de déterminer quelque chose qui... Toutes les lois, en quelque sorte, et il y a sans arrêt ce garde-fou. Attention, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire parce que sinon, le travail deviendrait un travail d'esclave. Mais être créateur, c'est s'exposer à un risque. Le risque, évidemment, c'est de se prendre pour un créateur. Ce risque-là, se prendre pour un créateur, ça s'appelle l'orgueil. Or, l'orgueil, c'est le problème de l'homme. C'est son problème qui lui vient de l'obligation dans laquelle il est d'être créateur. De cette chose quasiment impossible à faire, tu dois être créateur et en même temps, n'oublie pas que tu n'es que créature. Créateur, ça veut dire créer le futur. Créer le temps. C'est pas la première mitzvah que les Bnei Israël ont reçue en Égypte encore. Ils n'étaient pas encore sortis d'Égypte. C'est une mitzvah de maîtrise du temps, de création du temps, en quelque sorte. Créer le temps, c'est créer le futur. Alors, il y a deux futurs, bien sûr. Il y a un faux futur et un vrai futur. Le faux futur, c'est quand les choses sont déjà complètement planifiées. Alors, ça viendra demain, mais ça existe complètement aujourd'hui. Ce n'est pas un vrai futur. Bien sûr, il faut faire des plans. Mais tout ce qu'on peut planifier n'est pas un vrai futur. De ce point de vue-là, le vrai futur, c'est les temps messianiques. Ils ne sont pas planifiables. Mais c'est aussi le vrai futur, si on ne veut pas aller jusqu'au temps messianique, en fait, c'est une posture. C'est une posture réceptive. Se mettre dans la situation de recevoir. Je peux recevoir. Et puis, il y a un point très, très important, justement, dans cette direction-là, qui est le problème de l'attente. Être capable d'attendre. Attendre, c'est ce que nous disons, « Va'afalpi sheit mamea », bien qu'il tarde, ce Mashiach, et que nous l'attendons tous les jours. Je continue d'attendre. Être capable d'attendre, c'est en fait pas d'impatience. Pas d'indifférence, mais pas d'impatience. Être réceptif, ça veut dire j'attends. J'attends que quelque chose vienne. Mais alors, c'est la passivité complète? Pas du tout. Parce que dans ce temps où j'attends, j'ai toutes sortes de constructions à faire. Mais par rapport au but, en question, malgré tout ce que j'ai à faire, malgré toutes les mitzvot que j'ai à faire, malgré mon travail, en quelque sorte, j'attends. J'attends quelque chose d'autre. Là-dessus, j'attends. Je suis en train d'attendre. Et j'attends, j'essaie de prendre une posture qui va me rendre réceptif. Cette invention du futur, c'est toute la notion qu'on appelle le chidouche, la nouveauté. C'est cette mitzvah qui a été donnée au Bnei Israël en Égypte, elle a été donnée à Chodesh Hazelachem. Ce mois-là sera pour vous le premier des mois. Chodesh, c'est la racine de la même racine que Chidouche, renouveau, puisque c'est la nouvelle lune en fait. Donc le grand problème de l'homme qui vient justement de cette nécessité pour être à l'image d'Hachem, de faire un travail créateur, cette nécessité dans laquelle on est, elle nous mène à l'orgueil. L'orgueil, c'est se prendre pour le créateur. Quand nous parlons de l'orgueil, dans la Torah, on parle positivement de l'orgueil. Mais on parle de l'orgueil d'Hachem. Il y a Shira l'Hachem qui Gao Gaa, ça veut dire je vais chanter pour Hachem après la mer, le passage de la mer. Je vais chanter pour Hachem qui s'est enorgueilli. Oui, mais lui il peut s'enorgueillir parce qu'il est le créateur. D'une certaine manière, s'enorgueillir c'est piquer le manteau d'Hachem. Alors, si on avait une obligation de ne rien faire, ce serait facile de ne pas être orgueilleux. Je suis rien et je peux rien. Mais on te le dit, tu n'es pas rien. D'abord parce que tu es celui auquel Hachem a donné tes devoirs, en fait, des mitzvot. Et tu peux. Alors tu dois être cette miniature. Tu dois être à l'image d'Hachem. Tu dois te construire à l'image d'Hachem. Tu dois construire le Shabbat à l'image du Olam Haba. Tu dois construire ta vie de telle sorte qu'elle soit plus vivante. Et donc, dans le choix d'un travail, ça doit se refléter. Choisir ce qui est le plus vivant. Alors, ça peut impliquer, pour rester soi-même plus vivant, alors il faut peut-être s'adapter à son environnement. Ou bien il faut changer l'environnement. Ou en choisir un autre. Puisqu'on n'échappe pas à son environnement. Si on regarde ce que l'homme a fait au moment de sa création, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé. Nommer, c'est donc signifier. Et donc la signification, elle se présente comme une activité originelle d'Hachem, de l'homme, pardon. L'activité originelle, c'est signifier. Mais ça, c'est aussi exposé au danger de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, elle a commencé quand on a commencé à nommer avec le nom d'Hachem des choses, des éléments, des choses, des réalités finies, en quelque sorte, auxquelles on a attribué le nom divin. Donc pour échapper à l'idolâtrie, il faut admettre que tous les systèmes de signes, en fait, sont contingents, ils sont provisoires. L'activité créatrice originelle, cette fois-ci, c'est l'art. C'est des images, des formes, que Enoch a fait avec sa pointe. Enoch, il avait une pointe, un stylet, avec lequel il a travaillé. Et c'est à l'époque d'Enoch qu'on a commencé à être idolâtre. Les images, les formes ne sont pas des idoles. Mais on peut les, si on les transforme en fétiches ou en totems, etc., elles deviennent des idoles. Et l'art devient idolâtre lorsqu'il prétend dévoiler la totalité d'un sens. Dès qu'on touche à la totalité, on est dans l'idolâtrie. Donc si les activités initiales de l'homme sont donc la signification et l'art, qui est créatrice, l'activité créatrice, ça veut dire que le travail doit être quelque chose qui a à voir avec l'art, l'activité créatrice, ce qu'on avait dit sur... C'est sur les melachot de Shabbat. Que les melachot de Shabbat, les melachot qui sont interdites, les travaux interdits le Shabbat, ne sont réellement interdits que lorsqu'ils sont faits de façon, disons, artisane, artisanale ou artistique, quoi. C'est-à-dire que si on fait les choses, mais qu'on ne les fait pas comme un artisan les fait, c'est un interdit des Rabbanan, mais ce n'est pas l'interdit de la Torah. Ce n'est pas l'interdit de la Torah. Ça veut dire que Me'en Olam Abba, faire du Shabbat une miniature de Olam Abba, ça n'est possible que, disons, qu'en agissant comme un artisan ou un... Tenez, il faut savoir que j'agis de cette manière-là, et donc dans cette manière-là, c'est interdit. Ça, le véritable interdit, c'est les mlachot qui étaient faites dans le Mishkan. C'était les mlachot avec lesquels on a construit cette miniature du monde qui était le Mishkan, le tabernacle. Oui, le Shabbat, les travaux qui sont interdits, c'est ceux qui sont faits de façon complètement artisanale. Donc ça veut dire que quand je suis dans Shabbat, je dois réfléchir à chaque travail, et si je le fais comme un artisan, alors je sais que c'est interdit. Donc quelque part, je ne peux pas, comme je veux être un créateur, comme je veux être un créateur, donc je veux faire les choses de façon artisanale, ou en créant, Shabbat, c'est pas possible. Fabriquer le Shabbat comme Me'en Olam Abba, c'est suspendre toute activité véritablement créatrice. Sauf, enfin, toute activité, au sens d'acte. Et on peut retrouver ce que j'avais dit au début, c'est quand on a des actes à faire et qu'on ne peut pas les faire parce que on avait dit parce qu'on n'a pas de Bétamigdash, etc. Mais on a le Shabbat qui est aussi. J'ai des actes à faire, en disant, je veux faire des choses, et je ne peux pas les faire parce que le Shabbat c'est interdit. Alors ce que je peux faire, c'est étudier les choses. Au niveau de l'étude, si j'ai besoin de réfléchir ou d'être créatif, d'accord, je dois le faire. Je peux le faire dans le cadre des actes, au sens de, je vais utiliser mon étude pour clarifier les actes en question, savoir exactement quand est-ce que cet acte-là est un acte véritablement créateur, un acte véritablement artisanal. Et tout ça, c'est au niveau de ma pensée, au niveau de ma parole. Donc, je vais remplacer les actes par les paroles ici aussi. Donc, le Shabbat, c'est un jour où les paroles doivent être des paroles créatrices, en fait. Puisque ce jour-là, les actes créateurs sont interdits. Et donc, il faut les remplacer par des paroles créatrices. C'est pour ça que certains considèrent que Shabbat, on n'a pas le droit de parler de n'importe quoi. On ne peut parler que des livrets Torah, des choses concernant la Torah, ou parler de choses en les traitant selon, enfin, de la façon dont la Torah les traite. On peut parler de toutes sortes de choses. Mais il faut ne pas en parler de façon profane, mais en parler de façon shabbatique, c'est-à-dire comment la Torah présente ces choses-là. Alors, j'ai parlé jusqu'à présent uniquement de ce travail de création. On n'a pas parlé du travail de tous les jours. Est-ce que le travail est en soi, qu'est-ce que c'est le travail en soi? Bon, alors, si le Mein Olam Haba, c'est le travail créateur qui est interdit, ça veut dire qu'en fait, le lieu de ce travail créateur, c'est le reste de la semaine. Parce que Shabbat, ce travail créateur en acte, est interdit. Et donc, le vrai travail qui apporte quelque chose, qui construit l'homme à l'image d'Hachem, qui construit ce monde-ci, et qui construit par, en s'abstenant, le monde à venir, c'est un travail créateur. Donc on a dit créateur, c'est vouloir changer le cas échéant son environnement. Ou alors travailler à s'adapter à l'environnement pour pouvoir vivre complètement, parfaitement, disons. La Torah dit que quand Hachem a créé l'homme, il l'a créé afar min ha'adama. Il l'a créé avec la poussière de la terre. Alors, les Chachamim expliquent ce que ça veut dire qu'il a créé avec les poussières de la terre. C'est-à-dire qu'il a rassemblé de toutes les parties de la terre, de la poussière de ci, de là. Et ça, dit la Gemara, ça, il n'y a que pour l'homme qu'Hachem a fait ça. Il n'a pas fait ça pour les animaux. Et la raison pour laquelle l'homme diffère des animaux dans ce domaine-là, c'est pour que l'homme puisse s'adapter à tous les climats, à toutes les nourritures. C'est aussi pour qu'on puisse l'enterrer partout sans que la terre dise « Il n'est pas de chez nous, celui-là. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la condition humaine, c'est de ne pas être obligatoirement attaché à un lieu. Parce que sinon, on aurait pu le créer avec la poussière de ce lieu-là et vivrait toute sa vie à cet endroit-là, et point barre. Donc, dans la création de l'homme, il y a cette idée que cet homme-là va devoir s'adapter à des climats, donc à des nourritures, etc., différents. Par conséquent, ça veut dire que son environnement n'est pas obligatoirement un environnement qui va rester le même pour toute sa vie. C'est comme s'il y avait déjà une prise en compte d'une forme de nomadisme de l'homme. Il va falloir aller ailleurs, se déplacer. Et pour pouvoir se déplacer, justement, il faudra avoir des atomes crochus, en quelque sorte, avec la Terre, quel que soit l'endroit où on va se retrouver. Donc, ça veut dire, l'homme doit être... Merci. L'homme doit être créateur... Et un créateur qui n'a pas obligatoirement besoin d'un lieu bien précis pour créer. Il peut créer partout. Il doit pouvoir créer partout. C'est aussi très important, justement, de ne pas voir l'homme, y compris par son travail, attaché à un lieu bien précis. C'est la parasha de cette semaine. Le détachement de l'homme d'un lieu bien précis. Toutes les lois concernant la Shemitah, l'année sabbatique, etc., toutes les lois qui gouvernent notre rapport à la terre d'Israël, qui est notre terre, ce sont des lois qui sont là pour casser le lien standard entre l'homme et la terre. Comme si d'une certaine façon un homme ne pouvait pas vraiment être créateur s'il était attaché à un endroit. Pour être créateur, il faut pouvoir prendre de la distance avec l'endroit dans lequel on est. Sinon, ce n'est pas vraiment une création. Sinon, ça veut dire que tu fais avec quelque chose que tu as là, déjà, de donner. Bon, la création à l'image d'Hachem, c'est créer à partir de rien. Alors, bien entendu, nous n'en sommes pas capables de créer à partir de rien du tout. Seul Hachem peut le faire. Mais, dans toute la mesure du possible, être capable de limiter, c'est-à-dire créer à partir de, mais pas obligatoirement de mon lieu, créer aussi à partir d'un autre lieu, où que je sois, je suis capable de créer. Je dois être capable de créer les conditions, en fait, pour servir Hachem. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Oui, ben je voudrais peut-être.
Comment ?
Je pourrais peut-être ajouter la chose suivante. Lorsque on a inauguré le Mishkan, vous savez, pour des raisons que je ne connais pas, nulle part dans la Torah, on voit qu'on ait essayé de supprimer la structure tribale du clan d'Israël. C'est-à-dire, les Bnei Israël sont des tribus initialement. Et je n'ai trouvé nulle part de tentative d'unification au sens où on éliminerait les notions de tribu. Jusqu'à y compris la destruction, l'exil des 10 tribus, etc. C'est toujours en termes de tribu. Pourquoi est-ce que ça doit rester comme ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, au moment de l'inauguration du Mishkan, les princes des différentes tribus ont voulu inaugurer au nom de leur tribu, ils ont voulu inaugurer, donc ils ont apporté des sacrifices, enfin de toutes sortes de dons. Et le premier qui a apporté, c'est la tribu royale, c'est-à-dire la tribu d'Yehuda, Narchon ben Aminadav, qui a apporté, et alors il a apporté, la Torah nous fait une description, Midrash aussi, c'est une description gigantesque de tout ce qu'il a apporté. Et tout le problème, il est né à ce moment-là. Qu'est-ce que va faire le deuxième? Qu'est-ce que va faire Netanel ben Soar? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir se distinguer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter le double. Alors, je ne vous dis pas, à partir de 612, à chaque fois, il faut apporter le double. Bon, les troupeaux de la terre ne suffiraient pas. Donc, le génie du deuxième, de Nathan Ben Soar, c'est. Il s'est dit, on ne va pas changer. Je vais apporter exactement la même chose que lui. Seulement, je vais l'apporter avec ma personnalité. C'est-à-dire qu'il a compris que la nouveauté n'était pas dans t'apporter un bélier avec, je sais pas, une robe comme ceci, je ne vais pas dire de bêtises, je ne dirai rien. Et moi, j'ai apporté un bélier de meilleure qualité, etc. Pas du tout.
J'apporte exactement le même. Et vous vous souvenez bien, on a vu dans le Midrash que le Midrash s'attache à prendre exactement les mêmes termes et il les interprète tous en termes de royauté quand il s'agit de la tribu royale et tous en termes d'étude de la Torah quand c'est la tribu des spécialistes de l'étude. Et chaque, le Midrash ne le fait pas pour tous, mais le Midrash le fait pour 5, je crois, ou 6, il explique les mêmes éléments, le même plat qu'on a apporté. Il dit, bah ça fait référence à ceci, etc., en fonction de ce qu'était la personnalité de la tribu en question, disons. Donc la nouveauté, elle n'est pas dans les changements physiques, mais la nouveauté, elle est dans le changement des intentions, du sens qu'on veut donner à ce geste. Alors, c'est très intéressant de voir que le même plateau qu'on a en argent qu'on apporte, n'est-ce pas, est susceptible d'être interprété de 12 manières complètement différentes. Il y a 12 tribus, on interprète ce don-là complètement différemment. Et donc quand vous dites effectivement qu'on ne peut pas bouger, c'est vrai qu'on ne peut pas bouger dans la physique de la chose, au niveau physique, mais au niveau de la spiritualité, au niveau de l'intention, au niveau de la richesse de la pensée qu'on va ajouter à ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas de limite.
Si je peux me permettre juste, parce que je voulais transposer ça dans le domaine du travail, si je peux dire comme ça, ce que vous dites, effectivement, il y a une part qui semble se répéter, mais chaque fois l'intentionnalité doit effectivement changer. Je pense aussi quand même que le fait qu'il y ait eu cet ordre de fixer même le temps, les loyers notamment, donc introduit aussi finalement dans le cycle du fonctionnement du bétanaire.
Gdash.
Pas une nouveauté, mais enfin, quelque chose qui est quand même de l'initiative de prendre la main sur le cycle et sur le temps.
Tout à fait, et oui.
Ma transposition, enfin, elle est un peu vedette, mais elle serait quelque chose que je me suis toujours un peu demandé. J'ai toujours l'impression que dans le travail, il y a une part qui est dédiée au fonctionnement du monde, donc un petit peu, il faut bien faire aller les choses. Alors peut-être à chaque fois je peux y mettre une intention différente, un précepte différent, un souci de justice différent dans ce que je fais, etc. Et puis il y a la part que vous avez surtout développé ce soir, qui est cette part de création, créativité, inventivité. Sauf qu'on, là aussi, puisqu'on avait dans ce séminaire souvent montré que le travail était toujours une tension entre différents pôles, on a un peu aussi, j'ai l'impression qu'on le vit d'ailleurs dans son propre travail, tension entre ce besoin cette nécessité que le monde fonctionne, qu'est-ce que j'y mets comme intention, c'est vrai que c'est une interrogation que je peux avoir tous les jours quand je travaille, et puis en même temps quelle part je laisse ouverte à des rébouchis. C'était des questions.
Ah.
Non, je ne sais pas si on peut faire cette transposition.
Non, vous pouvez, oui, oui, tout à fait.
Vous avez parlé de l'art, ça m'a intéressé en disant que pour l'homme, un vrai travail créatif, créateur, ça serait le domaine artistique.
Ou artisanal. Dans les actes, oui.
Vous avez parlé de l'art aussi.
Oui, tout à fait. De l'art et de. Oui, de l'art ou l'art. Qui n'ont rien à voir avec le monde libre. même dans le cadre de l'étude, il y a des formulations, il y a des présentations qui ont des composantes, en tout cas, artistiques. Bon, disons là sous forme de... Oui, mais vous n'êtes pas obligé. On peut très bien avoir des... Il y a un art de la parole, il y a un art de présenter les choses de telle sorte qu'elles soient audibles, qu'elles soient recevables, qu'elles soient agréables à être reçues, qui est aussi de l'ordre de l'art. L'art n'est pas seulement une activité de la forme, elle existe aussi lorsque vous écrivez un livre, la forme que vous allez donner à votre livre, c'est de l'art. La façon de présenter les choses, alors ça peut être de l'art au sens physique du terme, si on parlait comme ça, lorsque vous allez mettre des enluminures ou des choses comme ça, ou alors la façon, le papier, le choix du papier, le choix du cuir, de l'objet livre que vous allez utiliser. Et puis il y a aussi la façon de présenter les choses qui est très certainement aussi de l'art. Je pense que il y a quelque chose comme de l'art dans la façon dont le Rav Etzraïm a inventé la façon de dont il a présenté Mishnah Berurah. Bon, cette clarté qui s'est imposée pratiquement partout aujourd'hui. Bon, c'est son invention. Il n'était pas spécialement imprimeur. Peut-être même pas du tout d'ailleurs. Peut-être que quelqu'un l'a aidé là-dedans, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait d'avoir présenté les choses, cette clarté justement qui permet de s'y retrouver et tout, je trouve que ça, c'est une forme d'art aussi. Maintenant, il y a des domaines de l'art qui nous ont été fermés, qui sont fermés parce que ça touche des domaines dans lesquels on ne peut pas aller. Et pendant un certain temps, on ne pouvait pas aller, on ne pouvait pas faire de la musique parce qu'il fallait être, Kapellmeister, n'avait pas beaucoup de chance de dire maître de chapelle, ou je ne sais comment ça s'appelle, de tel et tel prince pour faire de la musique. Donc c'était pas possible jusqu'à Mendelssohn, c'était pas possible. Mais ça veut pas dire que ça ne puisse pas exister. Bon, alors nous on n'a pas développé ces choses-là. Peut-être que c'est une autre forme d'art, mais la danse de chez David, le chant, c'était certainement quelque chose, bien qu'aujourd'hui nous n'en ayons pas. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'y a pas de danse. Toutes ces choses-là, elles sont devenues culturelles. Et je vous ai déjà dit, je pense qu'il n'y a pas de culture juive, donc il n'y a pas de, musique juive, il n'y a pas de peinture juive, il n'y a pas de sculpture juive.
On ne
c'était peut-être des considérations matérielles quoi, qui faisaient que les juifs n'étaient pas admis dans ces endroits-là. Quoi.
À partir de l'étude de la Torah, en réalité, il y a une plénitude telle que peut-être que Mais sinon, je voulais poser une question qui n'avait rien à voir, mais c'est parce que je suis. Je me demandais, est-ce que la... vous pensez que peut-être que la mitzvah de Pela Veliva, on va se connaître les raisons pour lesquelles les choses nous sont prescrites, mais est-ce que ça ne pourrait pas avoir à voir avec le fait que justement, il faut qu'on vienne dans cette espèce d'attente active qu'on a jusqu'à au temps de Mashiach, de développer effectivement non seulement en étant partout, en s'adaptant en tout lieu, mais toutes les facettes de création, et en réalité plus il y a d'êtres humains qui naissent, plus il y a de possibilités de créer, plus il y a de non seulement on fait pas besoin de créer une autre miniature, mais de créer une autre miniature, mais cette miniature va avoir la capacité de créer et de développer encore d'autres facettes. Est-ce que ça pourrait avoir à voir avec cette
Bah, si on considère que d'être créateur de cette manière-là aussi fait partie de l'imitation de Hachem, c'est-à-dire qu'on est miniature à ce niveau-là, de même que lui il crée des nous aussi.
Mais surtout de donner naissance, de donner vie simplement à d'autres créatures qui vont pouvoir elles aussi en fait pas seulement engendrer, leur création n'est pas du bon, ça reconnaît, mais aussi tout simplement créer, découvrir d'autres formes de création, de travail, de construction du monde. En réalité, plusieurs, parce que je me suis demandé pourquoi on nous dit il en faut encore plus, pourquoi on dit c'est bien d'avoir beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça va beaucoup perturber? Pourquoi il faut multiplier? Un, ce serait bien aussi, ou zéro et on s'arrête à telle génération. Et puis, si on nous dit que quelque chose va venir, qu'il faut l'attendre, mais pas en dormant, mais en créant. Est-ce que justement ce nombre qui nous est demandé, cette possibilité existe, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas justement pour que d'autres êtres trouvent d'autres façons de créer, d'autres façons de construire ce monde, face à l'infinité d'appels beaucoup, qui est encore plus et encore plus chaque fois?
Oui, ce serait notre façon à nous d'accéder à l'infini.
Quelque sorte. Je me suis demandé en
Thank you. le fait que le ce que tu présentes, le Yetzera se renouvelle chaque jour et qui nous pose chaque jour des problèmes qui sont pour ce jour-là insolubles, et où la Gemara dit que bon, ben, dans ce cas-là, Hachem nous aide. C'est-à-dire que les problèmes que lui pose sont des problèmes insolubles pour l'homme seul. Ces problèmes qui justement montrent, aident l'homme à prendre conscience de ce qu'il n'est qu'une créature et qu'il ne peut pas régler ces problèmes-là, il ne peut pas faire face à un renouvellement extérieur, radical, sans qu'Hachem l'aide. Ça, c'est une première chose. Plutôt, c'est la deuxième partie de ta question. Et donc, c'est une façon de nous aider, en fait. De nous aider à prendre conscience que tu ne peux pas y arriver tout seul. Parce que l'homme n'est pas, si on veut, c'est l'homme n'est pas capable de faire face à un radicalement nouveau, à lui tout seul. Et maintenant, le problème de l'impensé. Bon, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que chez les avots, il n'y a pas de. C'est pas un impensé, c'est un extrêmement difficile, ce que j'ai appelé impensable, je veux le dire par là, c'est extrêmement difficile à penser, et là aussi, en fait, tu pourrais dire, je dois le penser, mais je n'y arrive pas, mais c'est pour ça que je vous ai dit, que ces deux situations impensables, la sortie d'Égypte et le choix d'Abraham pour représenter l'humanité tout entière, c'était des choses qui ont été faites par Hachem. C'est-à-dire les hommes, à eux tout seuls, ne peuvent pas. C'est tout à fait dans le même style que la réponse à la deuxième question que j'ai faite auparavant. Il y a des points où, effectivement, nous ne pouvons pas. Et c'est important parce que si on pouvait toujours, alors ce serait extrêmement difficile de ne pas tomber dans l'orgueil. Il répond pas toujours. Enfin,
c'est ça son art. Il a apporté une réponse qui ne vient pas forcément de la chaîne, mais qu'il a trouvé en lui. Quoi.
Oui, enfin, quand on dit il l'a trouvé en lui, pour moi, avoir trouvé en soi, c'est pas obligatoirement détacher la chaîne. Ce que je trouve en moi, c'est aussi inspiré. Mon sechel, mon intelligence, elle me vient d'Hachem. C'est bien sûr qu'il y a du Yetzahara, mais mon intelligence, elle me vient d'Hachem.
Quand on dit que dans le premier vote, c'est peut-être un peu différent, mais quand on dit qu'il y a un plan de Torah, tout a été donné. Par exemple, pour la Torah, pour le monde, tout a été donné. La Torah orale, la Torah écrite, la Torah écrite, la formation. J'ai toujours l'impression que, quelque part, quand on fait du monde, on doit être dans une situation un peu maléfique, c'est-à-dire de retrouver ce qui a déjà été.
Mais ils n'ont pas pu transgresser non plus, puisqu'il n'y avait pas de chemin.
Mais en même temps, c'est paradoxal, parce qu'on nous dit que même sans avoir le Matatora, ils respectaient déjà ces lois. C'est un peu que j'ai du mal à comprendre. Mais donc, est-ce qu'il n'y a pas simplement une contradiction primaire, qui est qu'une vraie création, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Et ce n'est pas possible dans le monde. On sait que tout a été déjà donné.
J'ai vu très récemment qu'en fait, à ce sujet-là, il y a une grande discussion. Rabbi Israël Salanter, il pense que quand quelqu'un dans son limoud arrive à une conclusion et que cette conclusion est conforme à la halakha, alors là il n'y a pas un vrai chidouche. Il n'a fait que retrouver quelque chose.
Mais quand on arrive, quand dans son limoud, on développe quelque chose et qui n'est pas conforme à la halakha, c'est une opinion, mais ce n'est pas l'opinion qui a été retenue à la halakha, ça c'est un vrai chidouche, ça n'a jamais existé. Ça c'est ce que dit Rabbi Israël Salanter. Ça c'est ton histoire de transgression. C'est-à-dire c'est pas la transgression parce qu'il ne transgresse pas, mais il arrive à une autre conclusion que celle qui est retenue dans la halakha. Ça c'est Rabbi Israël Salanter, mais il y a un grand maître, qui s'appelle Octota Hoshen, qui a fait une introduction à son livre qui ne parle pas de ça, mais lui, il ne pense pas comme ça. C'est les deux grandes opinions à ce sujet-là. Mais si tu veux, c'est un sujet sur lequel on pourra réfléchir. La semaine prochaine, je sais pas. C'est Jean-David qui parlera sur.